Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour. André Jaunet à l'appareil, j'anime cette émission qui sera suivie de 8 autres émissions sur le thème des nouvelles solutions financières pour les territoires. Il s'agit de traiter les grands défis des territoires, social, environnemental, économique, démocratique, culturel, à partir des ressources territoriales, les ressources humaines, matérielles, naturelles, mais en utilisant l'entrée financière. Souvent, cette entrée financière, elle est considérée comme subie. Nous la considérons comme une entrée à maîtriser. Les ressources financières des territoires sont des ressources qui peuvent être orientées, valorisées. Et donc, nous avons créé un groupe de travail national avec des réseaux d'opérateurs et des cercles de réflexion. Donc, il y a l'Association nationale des pays, Financement participatif France, France Angels, l'Association française des fundraisers, l'UNADEL, France Barter, l'Agence France locale. Et puis des cercles de réflexion, donc le pôle de compétitivité, finance, innovation, le cabinet Utopie, et puis j'allais oublier TEPOS, puisqu'il ne faut pas l'oublier, puisque son représentant intervient aujourd'hui. Et donc dans cette série d'émissions, nous allons illustrer à partir d'exemples et d'analyses comment on peut, par exemple, avec une bonne conception d'investissement, multiplier d'un facteur 8 les retombées territoriales de cet investissement. On va montrer aussi comment on peut impliquer l'épargne locale et que les opérations que nous allons faire pour impliquer cette épargne locale vont permettre d'accroître l'épargne orientée localement et donc d'avoir des effets extrêmement positifs sur le développement du territoire et de ses habitants. Nous allons voir aussi comment on peut activer les échanges entre les entreprises du territoire pour augmenter leur chiffre d'affaires sans gréver leur trésorerie. Nous allons voir aussi comment on peut traiter les questions philanthropiques à partir d'interventions territoriales. Et donc aujourd'hui, pour commencer, nous allons travailler sur le thème de la mobilisation de la finance locale pour valoriser les ressources et maximiser les retombées territoriales. Je précise que je suis animateur du groupe de travail national et puis que j'ai écrit un ouvrage aux éditions territoriales sur le thème « Créer une dynamique de territoire ». Solutions participatives et durables. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous accueillons Yannick Régnier. Bonjour Yannick.
Bonjour André.
Alors Yannick, il va se présenter peut-être plus complètement, mais il est responsable des projets de territoire au réseau pour la transition énergétique, le CLER, qui est une association nationale. Et il a créé et il anime aussi le réseau des territoires à énergie positive. Il va peut-être nous expliquer ce qu'est ce réseau.
Alors, c'est exact. Et d'ailleurs, ce réseau vient de fêter ses 10 ans à l'occasion des rencontres nationales qu'on a menées la semaine dernière, d'ailleurs dans le territoire qui s'appelle Le Menet, dans les Côtes d'Armor, qui fait partie des collectivités fondatrices de ce réseau avec plusieurs autres, ainsi que d'autres acteurs territoriaux, notamment acteurs coopératifs dans l'énergie ou l'agriculture. Et aujourd'hui, le réseau Territoire à énergie positive, pour donner une idée, c'est 130 membres, dont 90 territoires, collectivités locales ou territoires de projet, qui en font partie. Et peut-être pour décrire très rapidement TEPOS, Territoire à énergie positive, ce que ça veut dire, pour un territoire ou des acteurs territoriaux, c'est l'ambition d'atteindre l'objectif 100% énergie renouvelable à l'échelle du territoire et de le dépasser, d'ailleurs, dans des logiques de solidarité avec les territoires urbains, qui sont plutôt moins dotés en ressources, mais c'est aussi positionner l'énergie au cœur du projet de territoire, c'est-à-dire de le sortir un peu de cette marge dans laquelle on le met des fois, qui est la marge environnement, développement durable, quand le développement durable n'est pas au cœur de la politique de la collectivité, et donc d'en faire un outil de développement local, parce que le réseau qu'on anime est essentiellement un réseau de territoires ruraux qui ont beaucoup de ressources et pas forcément toujours beaucoup de moyens humains ou parfois même financés pour les développer. Pour autant, dans cette émission, on va voir que ça peut marcher.
Ça marche très bien. Et d'ailleurs, il y a une grande vitalité de ce réseau. J'étais aux journées du pays de Menet. Là, il y avait plusieurs centaines de personnes. Et c'était vraiment extrêmement énergisant, si je puis dire, parce qu'il y avait beaucoup d'exemples très concrets et très, très dynamiques.
Bah, comme on le dit souvent, l'énergie, elle n'est pas que un vecteur, elle est aussi une énergie humaine. Et ça, on le voit souvent dans nos rencontres. Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous utilisez d'une certaine façon la finance pour mesurer ce qui se passe à l'échelle des territoires, avec notamment la notion de facture énergétique territoriale. Est-ce que vous pouvez développer cette notion ?
Oui, tout à fait. Alors, peut-être juste pour faire un tout petit pas en arrière pour commencer, déjà le CLER, Réseau pour la transition énergétique, qui est la structure pour laquelle je travaille, porte une vision de la transition énergétique qui est sociétale. C'est-à-dire qu'en fait, ça participe d'une vision complètement différente de la société et de son organisation, enfin complètement différente, disons, singulièrement en évolution, pour résoudre deux enjeux de civilisation qui sont très très forts, qui sont l'épuisement des ressources fossiles et le changement climatique. Donc ça, c'est vraiment un moteur d'action, pour dire, comme on l'entend parfois, hein, préserver les conditions de la vie sur Terre à moyen terme. À partir de ça, effectivement, quand on aborde les choses dans des territoires, et notamment ruraux, ça marche pas bien les discours un peu culpabilisateurs sur le changement climatique, vous devez agir, faites votre part du colibri, etc. À un moment donné, il faut quand même intéresser les territoires par des enjeux concrets du quotidien qu'on peut avoir en territoires ruraux. Le changement climatique, l'avenir de la planète, c'est pas toujours la priorité quotidienne première. Et c'est pas insulter les acteurs de territoire que de dire ça. Il y a pas mal d'autres enjeux d'accès aux services, tout simplement, enfin de la fin de mois, quoi, comme on dit. Et donc l'idée de, à un moment donné, de chiffrer avec des données financières, c'est justement de mobiliser politiquement, en particulier les élus locaux, sur l'intérêt de passer à l'action. Et donc, on a, à un moment donné, formalisé cette notion de facture énergétique territoriale. Pour rendre à César, c'est une notion qui nous vient d'Allemagne. Hein. J'ai travaillé sur des projets de coopération avec des territoires allemands qui utilisaient fréquemment cette notion-là. Tout simplement, la facture énergétique territoriale, c'est le cumul des factures payées par les acteurs du territoire, qu'ils soient les habitants, les entreprises, les collectivités, les structures publiques. Et ce qu'il faut dire quand même et qui est important, c'est que pour un territoire, pour prendre un exemple de 50 000 habitants, moi j'habite dans la Drôme, sur un territoire qu'on appelle la Biovallée, c'est 50 000 habitants et c'est 125 millions d'euros de factures énergétiques annuelles. Dès qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a un réel enjeu financier derrière ça. Et finalement, l'idée d'aller vers du 100% énergie renouvelable, donc dans une dynamique TEPOS, c'est simplement annuler cette facture énergétique, c'est-à-dire diminuer la facture par des économies d'énergie, donc des économies de facture, c'est comme à la maison, hein, tout simplement, et aussi produire localement à partir d'énergie renouvelable de l'énergie qui, jusque-là, est importée de l'extérieur, qu'elle soit pétrole, gaz ou nucléaire, même la plupart du temps. Et donc, finalement, relocaliser de l'activité à l'échelle du territoire plutôt que d'avoir, dans une analyse territoriale, une fuite d'argent vers l'extérieur.
Oui, d'ailleurs, vous aviez traduit ce montant global en montant pour un foyer, en montant annuel de fuite d'épargne liée à la consommation énergétique dans leur budget.
Oui, à l'échelle du budget d'un foyer, on est souvent sur des montants autour de 3 000 euros à peu près de budget énergie par an. Donc ça va vite, dès qu'on multiplie par le nombre d'habitants, on voit rapidement l'analogie avec ce montant global, hein, en millions.
D'accord. Et ces 3 000 euros, ils sont pour l'essentiel consommés à l'extérieur, si je puis dire. Enfin, ce sont des consommations externes.
Précisément, c'est au lieu de garder l'argent à la maison, on le jette par les fenêtres, comme disent mes camarades autrichiens.
Voilà, très bien. Et donc, à partir de ce constat, qui est évidemment quelque chose d'extrêmement pédagogique pour les responsables et aussi pour les acteurs que sont les entreprises, les habitants, etc., qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, on investit, c'est-à-dire que la transition énergétique à l'échelle des territoires, elle ne se fait pas toute seule naturellement. Mais elle peut se faire. Alors peut-être pour prolonger l'exemple de la Biovallée, donc territoire de 50 000 habitants, le territoire avait fait un exercice de chiffrage des besoins d'investissement pour sa politique de transition énergétique. Et pour gagner 20 points d'autonomie énergétique, c'est-à-dire passer de 5 à 25%, ce qui est déjà relativement significatif, mais quand même modeste, hein, somme toute, sur 6 ans, on était sur des montants d'investissement de l'ordre de 150 millions d'euros pour les énergies renouvelables, et 150 millions d'euros pour ce qui relève de l'efficacité énergétique, notamment rénovation des bâtiments ou action en faveur de la mobilité durable. Donc ce sont des montants conséquents, et la question qu'on se pose derrière, c'est qui peut investir ? Et quand on y répond de manière un peu simple et habituel, ben on se dit les développeurs énergies renouvelables, pour ce qui relève des énergies renouvelables, vont faire le boulot, quoi. Donc développeurs énergies renouvelables, grands énergéticiens, enfin je cite pas de nom d'énergéticiens, mais ils vous viendront en tête très facilement. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans les territoires. Et peut-être ça vaut le coup du coup de faire juste un petit, enfin illustration de ça par une communauté de communes qui fait partie réellement des pionniers et fondateurs du réseau. La communauté de communes du Toircet, dans les Deux-Sèvres, 36 000 habitants. C'est un territoire qui est engagé dans la transition depuis 15 à 20 ans aujourd'hui, de manière sérieuse et puis de plus en plus sérieuse. Peut-être juste pour revenir sur l'histoire, parce que c'est intéressant sur la perspective territoriale. Il y a une double dynamique originellement, une dynamique portée par le pays, Toircet, qui est une dynamique d'animation transversale qui a donné un plan climat. Un plan climat un peu avant l'heure, hein, avant que les plans climat deviennent obligatoires. Et puis parallèlement, la communauté de communes du Toircet, qui n'était pas sur le même périmètre, avait une politique de développement économique et elle avait une zone en fait d'activité, ancienne friche militaire, qu'elle a souhaité reconvertir dans le cadre d'un projet en zone de production d'énergie renouvelable. C'est la zone d'activité TIPER, T-I-P-E-R. Et en fait, ça a donné originellement deux dynamiques qui se sont combinées par la suite et qui ont en particulier donné naissance à des grands projets d'énergie renouvelable, de méthanisation territoriale, de parcs solaires photovoltaïques au sol, d'éoliens, de chaufferies bois par ailleurs. Et en fait, on a petit à petit finalement une volonté politique qui s'est très, très formalisée jusqu'à un projet de territoire dont un des quatre axes a été pour le territoire de devenir le territoire de référence en matière de transition énergétique. Et ce qu'on peut dire après une bonne dizaine d'années, c'est que c'est plutôt réussi cet objectif. Alors, pourquoi c'est réussi? Déjà parce que les moyens ont été mis sur la table. Et les moyens, c'est avant tout des moyens humains. Donc il y a une équipe aujourd'hui dans le Toircet qui réunit 8 équivalents temps plein, avec des aides publiques d'ailleurs qui ont largement consolidé la possibilité pour le territoire de se doter de ces postes initialement, notamment l'ADEME et la région Poitou-Charentes historiquement. Maintenant, pour donner peut-être une idée des résultats que ça a donné, eh bien, dans le Toircet, depuis une dizaine d'années, 90 millions d'euros d'investissement dans les projets énergétiques ont été consentis. Et ça donne 9 grands projets d'énergie renouvelable pour une puissance totale, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais de 90 mégawatts, c'est quand même beaucoup. Ces différents projets génèrent un chiffre d'affaires chaque année de 29 millions d'euros. Mais ces 29 millions d'euros, majoritairement, ils vont aux structures qui ont développé les projets. En fait, dans le Toircet, ce sont majoritairement ben justement des entreprises privées externes au territoire qui ont investi. Avec quand même une société d'économie mixte de la région, c'est quand même important. Et peut-être juste pour terminer sur le chiffrage, entre ce gros chiffre-là d'affaires et ce que le territoire récupère effectivement, lui, il y a une marge. Néanmoins, le territoire est quand même, je termine là-dessus, a aujourd'hui déjà 400 000 euros de recettes annuelles en fiscalité, ce qui est assez significatif, et ce montant-là couvre aujourd'hui largement le coût de l'équipe énergie, qui donc est pérennisé dans la durée maintenant grâce à cette mise en relation entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.
Et donc là, on a un modèle économique satisfaisant, mais si j'ai bien compris, un modèle économique dans lequel les opérateurs principaux sont externes, avec peut-être un risque de perte de valeur pour le territoire.
Ah ben c'est pas un risque, c'est une réalité. C'est-à-dire que la majeure partie de la valeur générée par ces projets aujourd'hui n'ira pas au territoire. Mais ce qui est intéressant quand même de noter sur cet exemple, c'est dès qu'on va loin en matière de développement des énergies renouvelables, aujourd'hui le Toircet est un petit peu plus de 30% d'autonomie énergétique, tout confondu, hein, électricité, chaleur, mobilité, ce qui est déjà conséquent. Voilà, on peut déjà avoir des résultats, y compris financièrement intéressants, qui consolident la capacité d'agir du territoire, mais on peut faire mieux. Et donc, ce que le territoire, depuis quelques années, réfléchit, c'est justement sa capacité à investir, lui ou les citoyens ou les entreprises, dans les différents projets qui vont être mis en œuvre. Et donc, effectivement, là, on vient plus particulièrement au cœur du sujet de notre échange, hein, et de la finance locale. Ben, en fait, c'est de dire que l'intégration territoriale des projets, c'est-à-dire notamment leur financement local, c'est vraiment le cœur et le moteur de la création de valeur locale. Je parlais du Menet un peu en introduction. C'est la philosophie initiale du territoire du Menet, hein, qui est un petit territoire, 6500 habitants. En gros, ils ont dit, nous, on veut développer des grands projets d'énergie renouvelable. On veut en faire un levier fort de développement économique pour notre territoire. Mais pour ça, on le fera systématiquement avec les acteurs de notre territoire. Et je cite quelques exemples, hein. Les éleveurs de porcs, on est quand même dans une zone d'élevage assez fort dans le Menet avec un gros abattoir sur le territoire. Ben, les éleveurs de porcs se sont fédérés pour créer une unité de méthanisation territoriale, qui a été la première unité de France d'ailleurs. Les citoyens se sont fédérés pour investir dans un parc éolien. Les collectivités ont mis en place des circuits de collecte du bois et ont investi dans des chaufferies bois. Il y en a une dans chaque bourg maintenant. Et puis les agriculteurs ont investi dans des panneaux photovoltaïques. Enfin voilà, je passe, mais systématiquement l'analyse du Menet, c'est de dire il faut investir localement dans les projets. Alors par contre, ce qui est un peu...
Donc on a plusieurs solutions. Le territoire qui résolument, de manière volontariste, crée... une dynamique dans ce domaine avec des opérateurs extérieurs. C'est le cas du Poircet qui donne de très bons résultats, mais une plus-value territoriale qui est finalement en partie captée par l'extérieur, par l'opérateur externe. Et on a, autre solution, le territoire lui-même qui décide de mobiliser ses ressources. Et d'ailleurs, ça peut être, dans certains cas, les habitants ou les acteurs, certains acteurs eux-mêmes qui, sans même se connecter directement aux collectivités, créent leurs propres ressources. Quand vous parliez des producteurs de porc, ils s'auto-organisent, non ?
Alors, exact. Alors, la particularité peut-être du Menet, c'est important de le signaler, hein, le territoire du Menet, il y a 50 ans, est reconnu par les acteurs du développement local, vous citiez l'UNADEL comme membre du groupe, hein, sur les finances locales, comme l'inventeur du développement local. Donc, le Menet est un territoire qui a une histoire et une culture territoriale très très forte, ce qui fait que les acteurs en sont bercés depuis leur enfance et ont cette capacité un peu entrepreneuriale et d'innovation, ce qui est extrêmement intéressant, mais aussi malheureusement extrêmement rare. Du coup, l'idée derrière, c'est d'aller vers la structuration de ce que nous, on appelle des opérateurs énergétiques territoriaux. Et ces opérateurs peuvent être de différentes natures et à l'initiative de différents types d'acteurs. On peut prendre quelques exemples pour illustrer ça rapidement. Le syndicat d'énergie de la Vendée. Donc, les syndicats d'énergie sont des groupements de communes et de collectivités aujourd'hui. Ce syndicat a créé, il y a un bon moment, déjà plus de 10 ans, une quinzaine d'années, une régie, donc une entité 100% publique, pour produire de l'énergie éolienne et en tout cas développer des projets d'éolien. Et ils ont mené un ensemble de projets qui a conduit à 5 parcs et à peu près 60 mégawatts, hein, ce qui est conséquent de projets. Tout ça avec de l'investissement public. Et d'ailleurs, symboliquement, au niveau de l'éolien, ils se sont arrêtés de développer pour passer à autre chose, notamment le photovoltaïque ou la méthanisation, au moment où les consommations du patrimoine public des collectivités que le syndicat connaît bien étaient couvertes par la production d'énergie renouvelable. Une sorte de patrimoine public à énergie positive, on pourra dire. On a un autre exemple. Alors cette fois-ci, à l'initiative d'habitants, c'est aussi une dynamique fondatrice, hein, en termes de projets citoyens. C'est historiquement l'association qui s'appelle Éolienne en Pays-de-Vilaine, qui est devenue Énergie Citoyenne en Pays-de-Vilaine, et qui a démarré avec un groupe d'habitants qui a monté un parc éolien intégralement porté et financé par les citoyens, donc sur le Pays-de-Vilaine, hein, comme l'évoque le nom de l'association, et sur la commune de Bégane. Et ici, on a plus de 700 citoyens qui ont investi, aux côtés d'ailleurs d'un certain nombre après d'acteurs publics, locaux ou institutionnels. Peut-être un dernier exemple pour aller du côté des acteurs économiques, la coopérative agricole des fermes de Figeac, sur le territoire de Figeac. Cette fois-ci, on est sur une coopérative qui, à un moment donné, il y a une quinzaine d'années, s'est posé la question de la pérennité de ses activités, de son modèle, on pourrait dire, financier. Et en gros, la plupart des coopératives font le choix de s'agrandir pour devenir plus forte et mieux mutualisée. Et à Figeac, la coopérative a une identité territoriale très forte et n'envisageait pas de s'agrandir. Elle s'est dit qu'elle devait trouver une autre solution, et ça a été le fait d'aller systématiquement sur l'innovation territoriale et l'entrepreneuriat de territoire. Et on a une coopérative qui a fait le choix d'investir dans des opérations photovoltaïques mutualisées il y a une grosse dizaine d'années, à une époque où le photovoltaïque était bien subventionné, on peut dire, et ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir des ressources en trésorerie importantes pour développer de plus en plus de nouveaux projets de transition énergétique. Et la coopérative est devenue vraiment un acteur clé de la production d'énergie renouvelable locale sur le territoire de Figeac.
Très bien. Donc, on voit qu'on a plusieurs dynamiques possibles. Avec, très souvent, il y a un levain, il y a un pionnier. Ça peut être un élu, ça peut être un administratif, ça peut être, dans le pays de Figeac, c'est Dominique Olivier, qui est un militant du développement local. Dans le pays de Ménet, c'est le père Toué, je crois. Enfin, c'est des gens qui...
Oui, Paul Loué, historiquement, oui.
Et qui créent cette dynamique. Mais en tout cas, le fait d'associer, de mobiliser les acteurs locaux, collectivités, habitants, entreprises, etc., ça peut partir de divers points, mais en tout cas, ça peut être des dynamiques extrêmement saines et durables, quoi.
Oui, peut-être, je vais me permettre une caricature, mais effectivement, lancer ce type d'opération, c'est pas une démarche de baba cool. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, qui se laisserait aller en disant, tiens, je vais sauver la planète. C'est une démarche entrepreneuriale. Et donc, l'entreprise réclame des gens qui ont quand même, une certaine volonté de prendre des risques, d'oser des choses. Donc, ce sont des personnalités toujours un petit peu exceptionnelles, hein, dès qu'on doit mettre beaucoup d'argent sur la table. Alors, peut-être c'est intéressant de mentionner que certains territoires ont une chance en France. Alors c'est un peu le cas au niveau du syndicat de la Vendée que j'évoquais, c'est-à-dire la régie a été créée par un syndicat qui lui-même existait et lui-même avait une certaine ampleur financière et des moyens humains pour le faire. C'est un petit peu la même chose pour la coopérative agricole. Elle ne connaissait pas l'énergie, mais a été dotée de personnes très compétentes qui ont fait des voyages en Allemagne, en Autriche, ont découvert comment on faisait et se sont adaptées. Au niveau effectivement d'éoliennes en Pays-de-Vilaine, là on est sur quelque chose de beaucoup plus fort, hein, parce que les personnes ne connaissent pas le sujet et se sont dotées des compétences au fil de l'eau. Alors, par exemple, c'est intéressant de noter à cet égard qu'en Allemagne, en Autriche, dans beaucoup d'autres pays où la culture énergétique est beaucoup plus décentralisée, des opérateurs énergétiques territoriaux comme ceux-là, il y en a beaucoup et c'est même finalement le modèle majoritaire. Et ça vaut peut-être le coup de prendre un exemple à ce propos d'une société publique locale, qui est un groupement de ce qu'on appelle en Allemagne les Stadtwerke, hein, qui sont, on pourrait dire régie, mais c'est pas toujours des statuts 100% publics, des fois il y a des statuts un peu hybrides, en tout cas ce sont des sociétés locales, majoritairement publiques. Cette régie a fait une étude avec un partenaire technique sur deux modèles de montage différents pour un projet éolien. Dans un cas, on a un modèle de montage où on a un partenaire extérieur privé qui vient développer le projet. Dans l'autre cas, le projet est porté, financé localement par l'acteur public. Donc là, l'exemple est public, mais en fait, les enseignements sont valables pour tout type de portage local. Pour cette éolienne de 3 mégawatts, ce qui est une grande éolienne classique aujourd'hui, donc 21 mégawatts au total, ils ont fait un exercice de chiffrage de la valeur générée sur toute la durée de vie du projet. Donc depuis l'investissement, l'achat des éoliennes, l'exploitation, le démantèlement, mais aussi il faut pas oublier le financement, parce que les gens qui apportent l'argent récupèrent évidemment une partie de l'argent et même plus, c'est quand même l'idée quand on entreprend. Et donc on a à peu près 100 millions de valeurs créées sur la durée de vie du projet globalement. Et dans le premier cas où on a un portage externe par un acteur privé, 7 millions d'euros restent sur le territoire et retombent pour des acteurs territoriaux. Dans le second cas, où on a un portage et un investissement local, 58 millions d'euros de la valeur reste ancrée sur le territoire. C'est 8 fois plus que dans le premier cas. Et c'est notamment 8 fois plus, c'est important de le préciser, parce qu'on a des effets très liés à l'économie locale, donc je pense que vous en reparlerez, André, avec peut-être d'autres interlocuteurs, avec ce qu'on appelle des effets multiplicateurs.
Des effets flippers, on dit.
Flippers, voilà, c'est ça, la boule va dans un sens et puis elle rebondit à plein d'endroits. Voilà, l'argent qui est injecté dans l'économie locale, elle reste dans l'économie locale sur des logiques un peu de rebond qui peuvent durer assez longtemps. Notamment pour les entreprises locales sur des chaînes de fournisseurs, hein, une entreprise d'éolien qui achète des chaises, par exemple, un fournisseur local, des dépenses de ménage et de salariés. Les salariés d'un territoire, ils vont acheter leur pain à la boulangerie, localement. Donc s'ils sont locaux, ils l'achètent là, sinon ils vont l'acheter ailleurs. Et puis des dépenses publiques, quand l'argent revient au public, il y a des investissements publics qui peuvent être consentis. Voilà, c'est un ensemble d'effets possibles multiplicateurs.
Donc là, on peut-être... est sur une étude universitaire qui compare deux projets. L'un qui, de manière obstinée, constante, cherche à utiliser les ressources locales, les entreprises, l'épargne, etc., pour construire l'investissement. Et l'autre qui est complètement indifférent à ça et recourt à des ressources externes. Et donc, on a un facteur 8 de différence dans les retombées. Il y a de quoi interpeller un responsable territorial.
Exactement, exactement. Donc, on l'interpelle, ça marche très bien. C'est-à-dire que nous, on a une très bonne oreille hein, autour de ces arguments-là. Simplement, derrière, eh bien, il faut de la personnalité politique quand on est élu. Il faut des compétences techniques. Donc, quand on est un agent territorial ou qu'on travaille pour une collectivité, ben voilà, il faut se former à ces questions-là parce que l'énergie, c'est quand même pas, enfin, en tout cas, le développement de projets énergétiques, c'est pas une compétence habituelle, traditionnelle aujourd'hui, forcément, chez les agents territoriaux. Et puis voilà, faut s'appuyer sur les acteurs parce que la collectivité ne peut pas toujours faire tout ça toute seule. Et surtout, ben, à un moment donné, voilà, il faut lever les fonds localement. Et donc, ces fonds peuvent être publics, comme on l'évoquait, venant d'entreprises, venant de citoyens, dès lors que ces fonds sont privés. Cet effet valorisateur pour l'économie locale, hein, ce fameux x8, il peut être activé, mais ça demande effort, énergie, constance, comme vous l'avez évoqué. Par contre, quand on a mis une pièce dans la machine, c'est une boucle qui est financièrement intéressante et qui va s'auto-entretenir positivement. Donc il y a vraiment cette dynamique initiale à mettre en place, et puis après, le territoire peut s'autonomiser énergétiquement, mais aussi financièrement, et c'est ça qui est important.
Et donc, vous compariez deux modèles, le modèle un peu germanique avec quelque chose d'assez décentralisé, et puis le modèle français assez centralisé. Mais on s'aperçoit que finalement, le modèle centralisé français, il permet tout à fait ces prises de responsabilité territoriales, et que même également par le fait qu'il porte des réseaux nationaux et connectés d'ailleurs vers l'extérieur, il y a une possibilité de mutualisation qui n'est pas non plus inutile.
Oui, vous faites bien de préciser ça. Hein. C'est un modèle que nous, on défend beaucoup, le territoire et les réseaux. Oui, évidemment, il y a une question de trajectoire historique, mais ça remonte à Napoléon, si vous voulez. C'est-à-dire que les pays germaniques, nordiques, même l'Italie du Nord, l'Espagne, etc., sont des pays historiquement décentralisés, où l'énergie a assez rapidement, dans leur histoire au XXe siècle, été traitée à l'échelle locale. En France, aujourd'hui, c'est plutôt pas le cas. On a des champions, et puis pour faire des centrales nucléaires, on peut dire que c'est utile. Par contre, pour gérer l'énergie locale, ce sont aussi des acteurs qui ont des compétences, mais les acteurs locaux ont tout à fait la capacité de se mettre en branle, on va dire, pour mobiliser eux-mêmes un levier de développement local qui est à leur disposition. Et c'est quelque chose qu'elle doit faire, et effectivement, juridiquement, légalement, c'est tout à fait possible. Simplement, on part d'un peu plus loin parce que les acteurs ne préexistent pas. En Allemagne, ils préexistaient et ils ont saisi, comment dire, les évolutions de des technologies énergie renouvelable qui aujourd'hui sont de plus en plus rentables et compétitives au fil de l'eau naturellement parce que les ressources étaient là. En France, il faut vaincre un peu cette barrière culturelle, qu'elle soit au niveau des entreprises comme au niveau des territoires, avant justement de pouvoir passer à l'action et créer de la valeur à partir de ça.
C'est ça, mais on peut dire aussi que dès qu'on fait la proposition, nos compatriotes, les territoires, les entreprises comprennent et sont prêtes à s'engager, et que la connexion avec les grands réseaux nationaux se fait, et que les grands opérateurs nationaux peuvent être en complémentarité avec ces approches.
Exactement. Exactement. Et finalement, autour de tous ces enjeux, ce qu'on vient à dire, nous, hein, travaillant avec des territoires ruraux, c'est que finalement, la transition énergétique à l'échelle territoriale n'est pas tant à l'échelle des territoires ruraux, où les consommations sont un peu modestes par rapport aux métropoles, des enjeux environnementaux prégnants. D'ailleurs, quand on entend les responsables politiques nationaux, les agences, les institutions, ils disent souvent l'enjeu, c'est dans les métropoles, etc., sur la consommation. C'est vrai. Par contre, la transition énergétique est un levier de développement rural, est un levier de cohésion des territoires, parce que les productions qui sont à la campagne, elles vont demain devoir alimenter aussi les villes, à l'instar de l'agriculture. C'est assez facile à comprendre. Hein. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pousser dans cette direction-là et de penser l'énergie autrement, c'était mon propos introductif, que par l'enjeu environnemental, pour justement qu'elle gagne une centralité dans le projet du territoire et qu'elle se déploie de manière très ambitieuse et avec des résultats à la clé.
Très bien. En tout cas, on retient aussi l'idée d'autonomie énergétique, hein, avec des résultats qui sont très variables selon les territoires, donc avec des objectifs qu'on peut évidemment soutenir. Puis on retient aussi cette idée de complémentarité avec les grands acteurs qui ne sont pas évidemment des adversaires, mais avec lesquels on peut travailler, mais à partir de cette mobilisation territoriale. Ben, merci beaucoup Yannick. Les auditeurs peuvent réagir sur le site Padio CNFPT, donc c'est là où on écoute l'émission. C'est là où on peut la balado-diffuser ou podcaster. Voilà. Merci à tous. La prochaine émission portera sur la mobilisation des épargnants locaux pour les projets locaux, avec des expériences magnifiques en Ardèche, Corrèze et aussi en région Rhône-Alpes, où on s'aperçoit que la combinaison entre la mobilisation des business angels, des investisseurs fortunés, et la mobilisation des autres épargnants, de l'ensemble des épargnants, permet un accroissement de la valorisation de l'épargne locale vers les projets locaux. Voilà. Donc, vous pouvez voir écouter cette émission sur radiocnfpt.fr. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas à réagir, à suggérer, à critiquer ou à complimenter, bien sûr. Merci, au revoir.
Merci, André. Bonne journée.
Merci, Yannick.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.